Oui, bonjour, c'est Nathalie de Toulouse. J'appelais suite à la chronique de Camille. Et justement, par rapport aux animaux, je trouve que sur France Inter, on s'aperçoit que c'est surtout ciblé sur certaines émissions. Et ça serait bien de parler notamment de l'engagement animaux qui a été abordé par pas mal d'associations, pour que ce soit parlé également aux heures de grande écoute, comme au journal de 13h ou au 7-9 le matin, parce que ça permettra de faire prendre conscience aux gens pour qui ils vont voter et savoir quels sont les candidats qui se sont engagés, parce qu'a priori, beaucoup de personnes sont quand même impliquées dans la défense et la cause animale, et je pense qu'ils ne se rendent pas bien compte qu'au moins ce gouvernement, là, mais non, vraiment rien à faire de l'éthique concernant les animaux, pour le climat aussi d'ailleurs, mais bon, pour les animaux plus particulièrement. Merci beaucoup, au revoir.
Bonjour à Terre Carrée, c'est Pierre dans la Creuse. Dans votre émission d'hier, il est fait état de la possibilité de réintroduire sur Terre des animaux préhistoriques disparus. Ainsi, donc, non seulement nous sommes capables de détruire les espèces animales actuelles parfaitement adaptées à leur environnement, mais nous pourrons réintroduire ces animaux préhistoriques sans s'occuper de la vie qu'ils auront et des problèmes que cela posera à une biodiversité qui ne leur conviendra peut-être pas. Donc l'homme est toujours et reste toujours un apprenti sorcier. Allez, bonne journée quand même et félicitations pour vos émissions.
Clarisse d'Andernos-les-Bains, merci pour votre émission dynamique qui donne des raisons d'espérer. Alors un autre combat sur le bassin d'Arcachon, Andernos-les-Bains justement, la rénovation pourtant nécessaire du port de plaisance du bétail va détruire un site préhistorique remarquable. Site qui a donné son nom à une taille particulière de silex, les triangles et segments du bétail. Ce faisant, cette rénovation va détruire aussi un dixième de la plage, un dixième en moins pour les limicoles qui l'hiver se nourrissent à la marée montante sur l'estran, un dixième en moins l'été pour les baigneurs, tout ça pour des bateaux qui ne sortent en moyenne que 4 heures par an. Une enquête publique a lieu jusqu'au 20 avril. Vous pouvez participer en allant sur le site de la préfecture de Gironde ou bien vous pouvez signer notre pétition en ligne sur le site de cyberacteur.org avec le hashtag bétail. Eh bien, merci Mathieu de m'avoir écouté et à bientôt.
Et merci à vous et vous continuez bien sûr à nous laisser vos messages sur le répondeur. Et si vous êtes sur le terrain pendant le week-end pour, par exemple, des mobilisations sur le front des luttes écologiques, eh bien, laissez-nous aussi vos messages avec des ambiances façon reportage pour donner encore plus de vie à ce répondeur et à vos actions. 01 56 40 45 45. On compte sur vous. Au sommaire de ce club de la Terre au Carré aujourd'hui, deux invités et deux sujets. Le premier sujet va nous emmener dans les coulisses du Centre Pompidou pour une enquête de terrain sur les espèces vivantes qui nous entourent et qui vivent avec nous. Et c'est vous qui êtes au cœur de cette rencontre, Vinciane Després. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour.
Vous êtes philosophe, vous avez rendez-vous tout à l'heure à 19h avec le public pour une discussion sur la place du vivant au musée. On va en discuter. Et puis le second sujet de ce club sera consacré à un toxic tour, une déambulation dans 6 lieux d'Europe où beauté fatale et dévastation écologique vont de pair. C'est à voir sur arte.tv et vous en êtes la réalisatrice Annelise Carlo. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous proposez donc cette série de 6 courts documentaires pour aller par exemple, on le verra, à la découverte des loups radioactifs de Tchernobyl, d'un lac empoisonné en Roumanie ou des boues rouges de Gardanne en Provence. On va se retrouver dans un instant pour en parler avec les messages, les questions des auditeurs sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec les notes vocales. Et puis un peu plus tôt que d'habitude, aux alentours de 14h20, ce sera votre journal des bonnes nouvelles et des curiosités. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde et ce sera 100% spatial aujourd'hui avec le son de Mars, l'image la plus proche du Soleil qui existe et puis cette fois l'étoile la plus lointaine de notre univers.
Et à 14h40 ce sera le rendez-vous de la campagne pour l'élection présidentielle, voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Emma Bouvier et Colin Gruel et c'est Florian Dorimini qui est à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Ce Ce que vous entendez est issu d'une performance musicale avec des moustiques proposée en novembre dernier à Pompidou par les compositeurs Robin Meyer et Bernard Faure. Vinciane Després, vous êtes chercheuse au département de philosophie de l'Université de Liège, autrice de plusieurs ouvrages sur la question animale. Et vous êtes justement cette année invitée intellectuelle, c'est le terme s'il vous plaît, du Centre Pompidou, dans le cadre d'un programme intitulé « Avec qui venez-vous ?». Donc ça c'était en novembre.
Ouais, c'était en novembre. Alors, ouais. Avec qui venez-vous ? On avait préparé avec l'IRCAM et notamment Nicolas Denain en se disant mais quand on vient avec qui venez-vous, vous venez avec des êtres qui font des sons, avec des êtres qui donnent à entendre, parfois à voir mais surtout à entendre. Et Nicolas Denain m'avait proposé en se disant on pourrait bien sûr inviter des gens qui composent avec les oiseaux et c'était d'ailleurs le rôle que Bernard Faure venait assumer, mais il y a d'autres êtres qui chantent et il y a d'autres êtres qui ont envie de chanter avec. Et donc Robin Meyer avait prévu un spectacle qui était magnifique où des moustiques chantaient et où un chanteur druba, un chanteur classe traditionnelle indien, ouais, et une musicienne venaient essayer de s'accorder, d'abord de leur donner envie de chanter avec leurs vibrations et de s'accorder de telle sorte à donner quelque chose qui ressemblerait à une symphonie plutôt qu'une cacophonie. Et c'était un moment purement magique.
Donc l'idée de ce cycle à Pompidou, donc ce soir c'est le prochain rendez-vous avec vous, oui, à 19h, c'est de réfléchir finalement aux espèces vivantes qui nous entourent, qu'on ne voit pas forcément, mais qui vivent pourtant avec nous.
Voilà, alors c'était donc l'idée, c'était une invitation que je proposais avec qui venez-vous, parce que je répondais moi-même à une invitation. Et je me suis dit, l'invitation qu'on me fait, c'était l'invitation du service de la parole, donc de Jean-Max Collard, Mathieu Pot-Bonneville, qui est le service qui s'occupe à Pompidou de faire circuler la parole. Donc c'est le cinéma, c'est les arts vivants avec Louis Yanos, et c'est aussi des rencontres, des débats, des festivals, le festival Orpiste, des choses comme ça. Et en quelque sorte, je me suis dit, mais il me demande avec quoi je viens. Je me suis dit, mais avec qui je viens ? Et si on renvoyait la question aux gens ? Et c'était tellement, en plus, c'est tellement bien tombé pour moi, c'est que je me suis rendu compte qu'en posant cette question et en rencontrant tous les gens qui étaient intéressés dans le Centre Pompidou, eh bien en fait, ils avaient tous quelque chose à m'apporter. Alors c'était les gardiens, on n'appelait plus les gardiens, pardon, on dit les agents d'accueil. Ouais. Les agents d'accueil venaient avec quantité d'histoires d'animaux à me raconter, des animaux clandestins, des chiens qu'on essaye de faire
entrer.
Qui viennent au musée, ben, dans des poussettes d'enfants, dans
c'est
des manchons, cachés dans des manteaux. Et puis il y a les pigeons qui s'introduisent et puis qui envahissent l'espace autour. Et puis il y a des araignées, mais plein d'araignées,
des souris.
Des souris, puis des rats, puis des autres oiseaux, puis une fois un lapin aussi est entré dans un... Alors là, c'est une histoire assez drôle, c'est une agent d'accueil qui raconte qu'elle fait le vestiaire ce jour-là, elle s'occupe du vestiaire, et elle reçoit un sac, et quand elle ouvre le sac avant de le mettre de côté, elle voit deux yeux un peu inquiets, et c'était un lapin que quelqu'un avait acheté au marché le matin, et qui devait normalement se retrouver dans le chaudron du soir. Et elle s'est un peu demandé, mais qu'est-ce que je fais de ce lapin vivant dans un sac ? Donc, il y a toutes sortes d'animaux et des anecdotes
elle
très
l'a libéré
drôles. Je ne pense pas. Et si elle l'avait fait, je crois qu'elle ne me l'aurait pas dit pour ne pas que je le répète, parce qu'il ne faut pas me faire confiance. Et donc, on s'est rendu compte que les vivants entraient, que quand ils ne pouvaient pas entrer, ils entraient quand même.
Ouais.
Et que, par exemple, une personne qui avait énormément de choses à me raconter à ce sujet-là, c'était les gens qui travaillaient à la conservation. Et donc, je me suis rendu compte qu'en parlant avec elle, parce qu'elle était là à cette première réunion aussi, donc c'est Véronique Sorano, eh bien qu'elle avait énormément de travail, ouais, pour empêcher le vivant,
c'est ça,
de détruire les œuvres. Et alors, à un moment, elle m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit, en fait, les œuvres d'un musée sont inaliénables. C'est-à-dire, on ne peut pas les vendre, mais elles sont inaliénables aussi par rapport aux vivants. On ne peut pas les céder aux vivants. Mais avec toutes les complications qui se font, c'est qu'il y a plein d'œuvres qui contiennent le fait qu'il puisse y avoir des insectes, il y a des matières vivantes, il y a des cheveux, il y a de la laine, etc. Ou même parfois les artistes ont tenu à ce qui est du vivant, de l'organique qui continue à faire un travail d'une certaine manière de prolongement de l'œuvre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Comment est-ce qu'on conserve ? Comment est-ce qu'on interrompt ? Qu'est-ce qui fait partie du devenir propre de l'œuvre et qu'est-ce qui fait partie de ce qui risque non seulement de la détruire mais en plus de menacer. On sait ce que c'est qu'un virus maintenant, on l'a bien appris, mais qui risque en plus de menacer l'ensemble des œuvres.
Donc c'est vraiment le thème aujourd'hui, c'est la place du vivant au musée et vous l'avez très bien illustré avec plein de cas de figure finalement très différents, le fait d'arriver avec des animaux ou d'en avoir dans les tableaux ou de provoquer des œuvres aussi, alors que finalement le musée c'est plutôt un endroit effectivement a priori où on ferme la porte à tout ce qui est vivant parce qu'il faut protéger les œuvres.
parce qu'il faut protéger les œuvres. Et donc le musée, c'est très bizarre, c'est que c'est en fait les œuvres dans un musée, on pourrait se dire qu'elles vivent un drôle de destin. C'est un jour Patrick Bouchain, l'architecte, qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, tu sais, quand les œuvres, les tableaux et tout sont dans les églises, ils continuent à vivre, c'est-à-dire à se détériorer, parce que c'est une vision pessimiste de la vie, mais ça fait partie du processus. Ouais. Et une fois qu'on les sort des églises et qu'on les met, en fait, on les tue. Pourquoi? Parce qu'elles arrêtent de bouger, elles sont plus sensibles, elles n'ont plus d'humidité, elles n'ont plus le soleil, elles n'ont plus de dégradation. Et il disait, finalement, faire venir des œuvres dans un musée, c'est en quelque sorte les tuer. Et c'est vrai qu'il y a tout un processus qu'on appelle l'anoxie, donc on retire tout oxygène, qui peut durer des semaines, d'après ce que la conservatrice, et elle va nous en parler ce soir, puisqu'il y a une rencontre autour des processus et des procédés, et des contradictions de conservation, et les contradictions que ça entraîne. Et d'une certaine manière, le musée, en fait, parle du vivant, ne cesse d'évoquer le vivant, ne cesse d'évoquer avec quoi nous sommes en relation, qu'est-ce qui compte pour nous, et en même temps se doit de l'interdire, parce que sinon ce serait un désordre ingérable pour eux.
Et donc votre objectif à travers tout ce projet, Vinciane Després, c'est quoi? C'est de, quelque part, faire prendre conscience de tout ce qu'on ne sait pas autour du vivant, qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas dans un musée? C'est quoi l'idée pour vous de...
L'idée était plus générale que ça. C'était de penser nous ne sommes pas seuls. Voilà, il y a plusieurs livres qui ont été écrits ces derniers mois et ces deux dernières années sur nous ne sommes pas seuls. Il y a notamment le livre de les Nabado et Antoine Chopeau sur nous ne sommes pas seuls. Nous faisons tout le temps des alliances avec des vivants qui comptent pour nous. Et ça, je crois qu'Alice pourra nous en parler parce que c'est dans les périodes de catastrophe que ces alliances se mettent à proliférer au mieux.
Ouais, alors c'était avec Tchernobyl, hein.
C'est l'idée que en fait, on est souvent, le musée est un endroit où on a le sentiment qu'on n'est rien qu'entre humains. En fait, on n'est jamais rien qu'entre humains. Non seulement parce qu'il y a des animaux clandestins, mais parce qu'en plus, tout ce que le musée va nous présenter comme œuvre, et on va en exposer à l'ornithologie passionnelle qui fait le titre d'une des expositions qu'on a mis en scène tous ensemble, ben c'est ça. Les artistes ne cessent de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a plein d'animaux. Et donc, c'était ça, finalement, l'idée, c'est de dire, avec qui venons-nous? Ben, ça veut dire, en fait, on est tout le temps habité par des microbes. Le virus est venu nous le rappeler, il est tombé en plein dedans. On vient avec un virus, on porte des masques, on est empêtré, empêché, etc. Et puis aussi, par exemple, ce qui sera exposé aussi ce soir, il fera l'objet d'un débat, c'est Gérard Auré, qui a fait un projet merveilleux, artistique merveilleux. Ouais. Ça s'appelle Leçon de choses, mais choses écrit comme chaussures. Ouais. Et en fait, il a collecté dans les semelles des gens à la sortie de la gare de SNCF, de la gare de l'Est, et à l'entrée du centre à Beaubourg, il vient gratter avec une brosse à dents vos semelles, il vous fait remplir une petite fiche en demandant d'où vous venez, et donc il prend votre trajet, et puis on plante très soigneusement, on met en culture tout ce qu'on a trouvé dans les semelles, dans des carrés, et on découvre comment les plantes utilisent les humains comme véhicule pour leur voyage.
C'est génial, c'est génial, sous les chaussures donc.
Sous les chaussures,
parce qu'on transporte
incroyable,
des bactéries, des lichens, des mousses.
Des mousses, des plantes,
des animaux,
énormément de choses. Ouais. Et donc chaque personne aura en quelque sorte son petit jardin de culture qui montre à quel point les plantes sont des opportunistes et les bactéries des opportunistes qui nous utilisent. On les croit immobiles, pas du tout, ils sont plus rapides que nous.
Nous sommes leurs chevaux de Troie.
Ouais, oui.
Alice Caro.
Le conseil qu'on vous donne quand vous quittez Tchernobyl, c'est d'ailleurs de jeter vos chaussures ensuite, parce que la poussière... La radioactivité est dans la poussière et donc forcément sous vos chaussures.
Vinciane Després, une artiste également prestigieuse invitée ce soir, Annette Messager quand même.
Ah oui, quel honneur, elle nous fait. Oui, elle nous fait
alors,
l'honneur.
Il y a toute une histoire d'oiseaux aussi avec elle.
Alors, oui, c'est alors l'œuvre qu'elle va nous présenter, c'est qui est exposée dans cette exposition, c'est les pensionnaires. Et en fait, c'est une anecdote dont l'artiste a fait quelque chose de merveilleux. Dans les années 70, elle a foulé par inadvertance un petit moineau mort sur le trottoir, et à partir de là elle s'est interrogée sur la relation avec les moineaux, la différence avec ces petits oiseaux, est-ce que ils sont si différents de nous, et elle a créé une pièce dans laquelle il y a des petits moineaux morts auxquels elle va donner des rituels et des soins, et donc les habiller, leur offrir des petites choses, etc.
Et mettre dans la baignoire, c'est hyper touchant.
Oui, c'est vraiment une œuvre absolument magnifique, et elle va venir en discuter avec nous ce soir, parce que ça aussi c'est avec qui venez vous, mais vous venez aussi avec des animaux qui sont en train de mourir.
Ouais. J'allais vous demander, pour être un petit peu plus gai quand même, est-ce qu'on a le droit de venir avec son chien, avec son chat exceptionnellement à Pompidou ce soir? Ce serait formidable qu'ils ouvrent les portes quand même aux animaux, non?
Je pourrais leur faire un coup tordu et dire, je vais leur faire un coup tordu. Mais oui, venez! Mais venez absolument!
Venez tous avec vos animaux ce soir à Pompidou à 19h!
Et puis je me ferai lâcher.
Faut le suggérer, voilà.
J'essaierai de voir qui va me lâcher.
Venez
le
avec vos perroquets, vos poissons rouges. Tout le monde est le bienvenu ce soir. C'est l'heure du vivant. Voilà. Est-ce qu'il reste des places encore? Comment on se débrouille? On s'inscrit, on y va directement?
On va voir sur le site. Je pense que c'est le mieux parce que je suis très mauvaise pour donner des indications pratiques.
Ouais. Un dernier petit mot sur Mystery Box parce que ça, c'est une autre œuvre qui est présentée. Oui. C'est ça. C'est sur le fait justement d'avoir des œuvres qui contiennent elles-mêmes des fragments d'animaux.
Oui, tout à fait.
Hein, c'est ça. Hein. C'est David Colohan. Hein.
Oui, c'est David Colohan. Et donc, c'est une œuvre dont en plus, il y a des objets qui contiennent des choses et qui sont complètement fermés. Et donc, cette œuvre, en effet, pose alors là le tout gros problème à la conservatrice, dans la mesure où, d'une part, il faut, comme il a prévu, elle peut contaminer les eaux, donc il faut l'en empêcher. Mais en même temps, tous ces êtres vivants qui ont pu chercher refuge, à qui l'œuvre a donné son hospitalité, pourrait-on dire, je crois que parler en termes d'hospitalité ici est tout à fait pertinent, et bien comment, d'une certaine manière, choisir entre ceux qui ont le droit de rester et ceux qui ne l'ont pas. Vous voyez un peu toutes les questions politiques qu'une œuvre peut poser avec des bactéries.
Voilà, beaucoup de diversité comme le vivant, et c'est justement la place du vivant au musée, c'est très éclectique, et vous êtes donc l'invité de Pompidou, Vinciane Després, c'est à 19h tout à l'heure, 19h-21h, et venez avec vos animaux, ça va créer une ambiance formidable.
Je ne suis pas responsable, c'est Mathieu Vidard qui s'occupera des entrées.
Allez, vous restez avec nous, Vinciane Després, dans un instant, le journal des bonnes nouvelles de Camille Cronier, et ensuite une balade en Europe avec le Toxic Tour.
C'est mal barré, oh chérie, je te resserre un café, il est un peu serré pour que tu te fasses à l'idée que ce sera bien lui le dernier. Enfin, c'est ce qu'on dirait. Encore une fois, l'amour s'arrête là. Encore une fois, il reviendra. C'est pas compliqué, oh chérie. Peut-être me suis-je emballé. C'est juste lui qui s'emballe, ou moi qui me suis fait des idées, et lui simplement désirer. Mais je sais qu'un jour viendra l'amour, il a juste pris un détour.
Barré, c'était Marie-Flore.
France Inter. La Terre au carré.
14h, quasiment 23, le journal des bonnes nouvelles. Camille, on passe au vert avec vous.
Et au-delà de la planète aujourd'hui, puisque c'est la folie dans l'espace en ce moment, écoutez ça d'abord. C'est un son totalement inédit puisqu'il s'agit de celui de la planète Mars. Enregistré pour la première fois, la toute première fois, ça vient d'être publié dans la revue Nature tout à l'heure. Je vous le remets. Voilà, c'est très calme. Ce qu'on entend, c'est le vent sur Mars. Il n'y a pas d'aigu, c'est très grave aussi. Son enregistré le 19 février 2021, lendemain de l'arrivée de Persévérance sur la planète rouge, grâce à un micro installé sur Supercam, l'un des instruments du robot. Micro tout petit, à peine 3,5 cm, conçu par l'équipe de David Mimoun à Isae Supaéro, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
On a pris un microphone du commerce extrêmement sensible et qui résiste à des températures brutales. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Mars, il y a à peu près 80 degrés de variation de température journalière. Donc en fait, il fait entre moins 80, moins 90 et moins 10 dans la journée de façon tout à fait classique. Donc en fait, il a fallu le tester en chaud-froid, plusieurs milliers de fois pour être bien sûr que ça allait tenir.
Victoire donc et démonstration scientifique parce que...
Pendant très longtemps, en fait, on a pensé qu'il y avait pas beaucoup de son sur Mars, en fait, parce que l'atmosphère est très peu dense. Et double peine, en fait, le dioxyde de carbone, qui constitue l'essentiel de l'atmosphère de Mars, absorbe les fréquences audio, on va dire, autour de la voix humaine.
Et au-delà de la découverte et de la fascination que peut procurer cette bande-son de Mars, il y a la science pure, parce que c'est un élément qui permet de mieux comprendre les turbulences dans l'atmosphère martienne, avec nous tout au bout.
En comparant les différentes planètes, ce qui nous intéresse, faut être clair, à la fin des fins, c'est la Terre, c'est l'évolution de l'habitabilité sur Mars, sur la Terre, sur Vénus. Donc ça nous donne une pièce de ce puzzle-là.
Voilà, enregistrement donc inédit. Et de Mars, je vous emmène vers le Soleil avec non pas le son, mais une image inédite, là aussi, la photo la plus proche jamais prise du Soleil, à environ 75 millions de kilomètres par la sonde Solar Orbiter. C'est magnifique, vous pouvez aller voir, elle est partout sur Internet. Le Soleil, notre étoile, mais connaissez-vous Herendel ?
This record-setting star.
Une étoile record, la plus lointaine, dit la NASA, jamais observée, cette fois la plus lointaine jamais observée, 12,9 milliards d'années-lumière. Elle nous vient quasiment, en fait, du tout début de l'univers. Et Éric Lagadec de l'Observatoire de la Côte d'Azur, président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique, est comme un dingue avec tous ses collègues.
C'est waouh. Le truc qu'on cherche, le Graal, c'est de trouver les premières étoiles qui ont été formées dans l'univers. On n'a jamais pu observer une étoile qui était aussi peu de temps après le Big Bang. On la voit comme elle était quand l'univers avait 7% de son âge. Donc c'est vraiment une étoile au tout début de l'univers, c'est juste 900 millions d'années après le Big Bang. Enfin, ça semble beaucoup, mais l'univers a 13,8 milliards d'années, donc un truc qu'on n'a jamais observé une étoile si loin. La masse, entre 50 et 100 fois la masse du Soleil. Et elle brille comme un million de fois le Soleil.
Voilà, Herendel, soit étoile du matin en vieil anglais, qui pourrait donc peut-être nous aider à en savoir plus sur la formation de l'univers. C'est le super télescope James Webb qui va étudier sa composition pour savoir par exemple si c'est une étoile pristine, composée d'hydrogène et d'hélium uniquement. Mais je signale quand même que c'est pas James Webb qui l'a repéré, mais ce bon vieux télescope Hubble, ouais, positionné depuis 32 ans au-dessus de nos têtes. Hubble qui pourrait peut-être chanter ça du coup, non ?
J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant.
J'étais obligé, c'est vendredi.
Et Céline Dion dans la Terre au Carré.
C'est le journal des bonnes nouvelles.
Exactement, du vendredi.
Vinciane Després, je sais que c'est pas très vivant dans l'espace, enfin jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que ça vous intéresse quand même ce qui se passe là-haut?
Moins que ce qui se passe ici-bas. Je crois que c'est vraiment, c'est une phrase que Baptiste Morisot avait écrite et ce qui m'a vraiment intéressé. Il disait, mais on est allé explorer partout pour trouver de la vie alors qu'il y en a plein chez nous et qu'elle est encore totalement inconnue. Mais il y a une chose qui m'intéresse dans ce que vous dites et qui rejoint le dernier message que la dame avait donné sur le répondeur. C'est que on constate qu'il y a une multiplication des temps et une multiplication des espaces pour le moment. Je veux dire, les temporalités, on est en train de vivre avec des temporalités toutes différentes les unes des autres. Les temporalités du nucléaire, par exemple, les temporalités de chaque vie animale, les temporalités de ces étoiles en culotte courte, j'avais envie de dire, en les entendant, à cette première étoile. Et donc, les temporalités, on est en train de vivre une histoire qui multiplie. Il n'y a plus une flèche du temps. Il y a plein d'histoires qui se chevauchent et qui se mettent en millefeuille. Et les espaces aussi, d'une certaine manière, l'espace de la plage, l'espace des bateaux, l'espace des animaux, l'espace des fouilles archéologiques, l'espace, etc., sont en train aussi de se disputer en quelque sorte. Donc il y a des conflits d'espace et des conflits de temps qui sont extrêmement intéressants et qui montrent qu'on est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui bien fiable, dans lequel on avait confiance, où on pensait que le passé était derrière nous et le futur devant.
Ça bouge,
je parle un peu comme la tour.
Ça bouge beaucoup en ce moment.
Oui, exactement.
Et tout le monde le ressent.
Oui, tout à fait.
Les plaques tectoniques du monde sont en train
exactement. Et du temps. Et de l'espace, c'est extraordinaire.
La Terre au carré sur France Inter.
Au premier regard, ici, on peut être complètement estomaqué par la beauté du site, puisqu'on a l'impression d'être dans le Colorado provençal, en présence d'ocre. Mais non, on est dans les collines à proximité de Gardanne. Et en fait, cette terre qui émerveille les touristes et ceux qui viennent se promener le week-end, c'est un déchet industriel, ce sont des boues rouges liées à la production d'alumine.
Extrait de votre Toxic Tour, mini-série que vous avez réalisée pour Arte.tv, Annelise Carlo, et que l'on peut voir donc en ce moment sur le site de la chaîne. On écoutait cet extrait avec la voix du géographe et lanceur d'alerte Olivier Dubuquois. C'est le premier épisode justement consacré aux boues radioactives. Je dois dire un épisode assez sidérant pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette problématique, mais que les Provençaux, eux, connaissent bien, et les habitants de Gardanne en particulier. On va en reparler dans un instant. C'est quoi finalement le pitch de ce Toxic Tour pour vous ?
Bah, Toxic Tour, ça vient des États-Unis. C'est né dans les années 90 où justement on emmenait les gens un peu plus privilégiés découvrir en fait les zones de pollution dans les quartiers moins privilégiés, plus pauvres. Et c'est venu de là et ça s'est répandu. Et beaucoup d'associations, d'ONG aujourd'hui à travers le monde réalisent des Toxic Tours. Et quand j'ai pensé à un titre, il est venu naturellement. Parce que c'était l'idée d'aller montrer six lieux pollués, contaminés à travers l'Europe.
Mais pardon, c'est une sorte de tourisme finalement des pollutions ?
C'est aussi une forme de tourisme, ouais. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un peu l'idée des lieux, parce que je les ai d'abord trouvés, paradoxalement, sur les réseaux sociaux.
Ah oui, j'allais vous demander justement comment vous aviez choisi ces six lieux. C'est-à-dire vous avez regardé sur Instagram par exemple.
L'idée de départ, c'était de montrer des lieux où la pollution se verrait à l'œil nu. Où elle serait très visible, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, quand on a vraiment commencé à chercher, je suis tombée sur Instagram, où en fait, beaucoup de lieux, notamment celui de l'Espagne, celui de l'Italie, les gens se prenaient en photo devant, ah bon ? Sans savoir que ce qu'ils prenaient en photo, c'était de la pollution. Ils étaient attirés par les couleurs.
Et par la beauté.
Par la beauté.
Esthétique.
Exactement, des lieux qui les fascinaient.
Donc c'était votre point de départ. Finalement, ces lieux instagrammables, hein, et qui sont en réalité, c'est la face noire finalement du site que vous visitez, des lieux ultra pollués. Hein.
C'est ça, avec une pollution aux couleurs très trompeuses.
Ouais. Par exemple, vous parlez de l'Espagne. Il y a quoi en Espagne qui est instagrammable, mais terriblement ?
C'est un fleuve rouge qui est le fleuve du Rio Tinto en Andalousie. Et en fait, l'eau qui sort de cette terre n'est que rouge. Elle n'est plus que rouge. Et elle est liée, en fait, à la surproduction minière. Et je trouvais que c'était très symbolique d'une terre qui produit une eau qui n'est plus que rouge, en fait. Si on ne comprend pas le message, aussi symbolique soit-il, c'est vraiment dommage qu'on ne l'écoute pas.
Alors, chaque épisode, et c'est le format aussi qui est très intéressant, fait 6 minutes 30, 7 minutes maximum. Donc ça, c'est un choix aussi de la chaîne. Et on va aussi de plus en plus vers ce type de format, Annelise Carlo.
Oui, en tout cas, dans les nouvelles écritures documentaires, il y a une volonté de partir sur des petits formats qui permettent d'écrire une série et donc d'embrasser plus largement un sujet en allant à chaque fois quand même assez loin au sein du sujet malgré les courts formats. Et à chaque fois, les histoires sont portées par un seul personnage.
C'est ça, il y a un incarnant qui vit sur place ou qui est un meneur.
Qui a un lien très fort avec le lieu, qu'il soit émotionnel, effectivement, ou personnel.
Mais donc c'est plus un récit ou une enquête ? Parce qu'il peut y avoir se dire, oh là là, c'est une personne qui est en train de nous parler d'un lieu, quelle légitimité cette personne a-t-elle ? Et effectivement, en 6-7 minutes, est-ce que vous avez le temps d'enquêter et du coup de vraiment faire sortir tous les tenants, les aboutissants de sujets parfois très complexes ?
Mais c'est très complexe et c'était d'ailleurs la principale difficulté du sujet. Comment parler de la pollution sans prendre des spécialistes, des scientifiques pour expliquer les impacts, les effets de la pollution. Et moi, donc évidemment, je suis journaliste, donc j'enquête à la base. Je trouve les lieux, je trouve les personnages, je trouve l'histoire et j'aide en fait un personnage qui ensuite va raconter sa propre histoire, son lien personnel avec l'endroit, à raconter une histoire qui soit compréhensible par tous du début à la fin. Avec certaines fois des éléments historiques, d'autres fois des éléments scientifiques, mais ça reste très grand public. Et ce qu'on a surtout voulu montrer, c'était comment la pollution pouvait aussi, au-delà des aspects traditionnels qu'on a l'habitude de monter, scientifiques, médicaux, voilà, ça pouvait aussi toucher des choses beaucoup plus personnelles, comme la perte de mémoire, des sentiments, en fait, faire appel à la sensibilité des gens. C'était aussi une volonté de raconter la pollution de manière un petit peu différente.
Alors, il y a l'épisode 6 sur les loups de Tchernobyl. Déjà, le titre est excellent, évidemment. Ça va intéresser Vinciane Després, parce qu'évidemment, cet endroit est très particulier depuis l'accident de la centrale, puisque c'est aujourd'hui, en tout cas pour la zone d'exclusion, un lieu où la biodiversité a pu s'exprimer totalement librement. Et la question des loups, vous l'avez suivi justement avec une Ukrainienne.
Une zoologue ukrainienne.
Ça a été tourné, évidemment, avant les conflits.
En juillet dernier, oui.
Qu'est-ce qu'on voit là-bas? C'est-à-dire qu'il y a toute une faune, vraiment, qui s'est développée en toute liberté.
Oui, tout à fait, puisque l'homme n'y a plus accès, ou en tout cas pour des centaines d'années, certainement. Après, il y a des gens qui vivent dans la zone de manière temporaire. Mais donc, c'est vrai que les animaux se sont développés de manière beaucoup plus tranquille, à l'abri des humains, en fait. Donc, c'est devenu une réserve naturelle au cœur de l'Europe. Alors, je ne sais pas aujourd'hui dans quel état elle est exactement avec les conflits qui s'y déroulent. Mais c'est vrai que c'est, d'un point de vue biodiversité, paradoxalement, ce lieu de la contamination ultime provoquée par l'homme, la nature l'a repris.
Ouais, exactement. Et moi, je trouve que c'est une des images hyper frappantes, justement, de ce numéro sur Tchernobyl. C'est que vous filmez l'ancienne ville, finalement, par drone.
Ouais.
Exactement. Et on voit la végétation qui a repris complètement ses droits. Et on se dit qu'en quelques décennies à peine, finalement, on peut effacer toute trace de vie humaine, hein, même de bâtiments, d'architecture.
Complètement. Mais on peut s'auto-effacer, en fait, puisque c'est de notre faute.
Ouais.
Et ce qu'on voulait montrer dans cet épisode, c'est que quel que soit, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, la contamination, la pollution qu'a provoqué l'homme, la nature et les animaux lui survivront, très certainement.
Mais Vinciane Després, cette résilience là de la nature qu'on met assez souvent en avant, est-ce que ça peut pas être un peu contre-productif? C'est-à-dire, on se dit, bon, bah, on va pouvoir polluer à fond, puis de toute façon, un jour, ça reprendra le dessus quand on partira, mais en attendant, on y va. Vous voyez ce que je veux dire?
J'ai pas l'impression que ce serait le sentiment qui en émergerait, parce que... ce sont des conditions où, en effet, il faut imaginer notre disparition. Je vois mal les humains que nous sommes imaginer avec joie et plaisir notre propre disparition en se disant, tiens, les animaux, ça ira très bien après pour eux. Non, maintenant, on sait très bien, et je pense que c'est ça, c'est pour le moment ça les choix, c'est quelles sont les conditions d'habitabilité commune et en plus, bon, ben, Tchernobyl, c'est vrai que ce qu'Annelise raconte, c'est que les loups s'en sortent bien, mais ils sont assez exceptionnels bien sortir. Pourquoi? Là, je vous laisse expliquer.
Oui, ben les loups, en fait, voyagent beaucoup au sein même d'une journée. Et voilà, ils sortent de cette zone d'exclusion pour aller se nourrir. Donc, du coup, ils sont moins exposés que des animaux qui resteraient en temps normal tous les jours pour la nourriture.
Mais enfin, il y a une espérance de vie qui est quand même réduite.
Et aussi,
il
y a plein de.
Il y a quand même des marques aussi.
Mais les loups ne vivent pas très longtemps de manière générale.
Annelise Carlo, les boues radioactives de Gardanne, il faut en dire un mot parce que c'est le premier épisode. Cette usine d'alumine, donc dans les Bouches-du-Rhône. Pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ressemble la ville, on l'a regardé avec Camille.
C'est
tout rouge.
On a l'impression que c'est de la peinture, donc vous précisez, les bâtiments ne sont pas peints en rouge.
Non, effectivement, ils ont même changé la couleur des panneaux de signalisation, puisque les panneaux de signalisation en France sont blancs.
Ouais.
Et donc
c'est à cause de quoi? C'est la poussière qui s'incruste?
C'est les processus industriels qui créent ces déchets et qui, du coup, créent une poussière qui se répand dans l'air s'il y a du vent, particulièrement.
Et ça mobilise évidemment beaucoup les habitants de cette région. On y reviendra plus longuement dans cette émission. En tout cas, le Toxic Tour, c'est sur arte.tv, c'est visible en ce moment. Les 6 épisodes, il faut les regarder.
Binger, comme
on dit. Exactement, ça dure 6 minutes. Allez, avant de vous quitter, un mot sur la soirée spéciale Gisèle Halimi. Ce sera lundi soir en direct du 104, de 20h à 22h. C'est présenté par Sonia De Villers. Une soirée spéciale, justement, pour fêter Gisèle Halimi et ses engagements. C'est à suivre, évidemment, sur place. Vous pouvez réserver encore, il reste des places. Maison de la radio et de la musique.fr. Si vous souhaitez y aller, il y aura beaucoup d'invités. Clara Luciani, Fatima Wassak, Jamila Boupacha et Annie Cogent, entre autres. Up to me. Inter. Vinciane Després, vous êtes très inquiète depuis que j'ai dit qu'on pouvait aller à Pompidou avec ses animaux ce soir. Surtout
flippe,
ne le faites
flippe,
pas.
Vinciane. Voilà, je me suis dit, bon, c'est un 1er avril, peut-être que tout le monde aura compris que c'est une plaisanterie, mais les agents d'accueil, à mon avis, ne pourront pas. Et Mathieu Vidard gardera vos bêtes.
Non,
l'entrée pour les garder. Si
donc vous ne venez
pas
avec vos animaux ce soir à Pompidou, le message est passé.